Chapitre 70. Au centre du plan de la ville, déroulé sur son bureau, Charles désigne la rue des Vertus. De son index, il indique un pâté de maison précis. Si votre évaluation des distances sous terre est exacte, le passage qui s'est écroulé sur notre malheureux compagnon devrait se trouver quelque part sous cet ensemble-là. Vincent réfléchit. Qu'y a-t-il à cet endroit? Des immeubles d'habitation assez délabrés, quelques commerces et une fabrique d'ustensiles de cuisine en métal émaillé. Il est probable que ceux qui vivent dans les parages ignorent tout du tunnel qui serpente sous leurs pieds. Cavell gratte sa barbe naissante à laquelle il a du mal à s'habituer. Personne ne peut se douter qu'un tel ouvrage existe, approuve-t-il. Les pentes étaient telles lors de notre exploration que nous sommes forcément descendus bien au-dessous du niveau des caves les plus profondes. Il marque une pause. Savez-vous ce qui me déroute le plus avec ce tunnel, Charles? Addison fait non de la tête. D'ordinaire, un passage secret possède sa propre cohérence, née de sa raison d'être et de la culture de ses concepteurs. Mais celui qui nous occupe fait appel à des savoirs et des moyens qui débordent de loin l'arsenal de chacune des communautés qui auraient pu le bâtir. C'est-à-dire, il possède l'épure des passages agencés par les religieux, mais se montre plus retors et n'hésite pas à s'avérer mortel, ce qui va à l'encontre de leurs principes. Il est assez violent pour être né de l'imagination de brigands, mais jamais il n'aurait été capable d'y associer des systèmes de sécurité aussi complexes. Il pourrait également être l'œuvre d'adeptes de l'occulte, mais il fait appel à des sciences qu'ils n'ont pas l'habitude d'employer. Et nous n'avons trouvé aucun de leurs symboles, qu'ils sont pourtant prompts à disséminer. Soit c'est un exceptionnel mélange, soit quelque chose m'échappe. Comme si ceux qui l'avaient imaginé avaient pioché dans toutes les méthodes pour n'en retenir que le plus efficace. Si seulement nous savions vers quel lieu il mène. J'en ai parlé à mes compagnons. Certains peuvent nous apporter une aide précieuse et se sont aussitôt mis au travail. Le manuscrit de Loyola et la clé gravée sont en ce moment même à l'étude. Je suis impatient de connaître leurs conclusions. L'un de nos historiens a déjà pointé un fait qui me paraît de la plus haute importance. Vraiment ? En se penchant sur l'histoire de la maison de Flamel et de la rue de Montmorency, il a déniché une information essentielle. Il y a de sérieuses chances pour que la propriété de l'alchimiste, aussi ancienne soit-elle, n'ait pas été la première construction à se dresser à cet endroit. Vincent est suspendu aux lèvres d'Addison qui poursuit. Il semble qu'avant l'établissement des premières maisons préfigurant la rue que nous connaissons aujourd'hui, l'emplacement a été occupé par tout autre chose. La construction de la demeure de Flamel date de 1406. Or, selon notre chercheur, un enclos, peut-être rattaché à un hospice ou même à une petite garnison, se trouvait là depuis déjà au moins 2 siècles. L'environnement était alors bien moins citadin et quasiment perdu au milieu des champs et des bois. Un hospice ou une garnison, ce n'est pas tout à fait pareil. Quoi que ce fût, il est avéré qu'il s'y trouvait une sépulture assez grande pour être notifiée dans plusieurs inventaires et actes notariés de l'époque. Je ne parle pas d'une simple pierre tombale, mais au minimum d'un caveau ou d'une chapelle. Sait-on qui était inhumé là? Pas précisément, mais la parcelle appartenait alors à Enguerrand de Tardenay, connu pour son engagement dans la Troisième Croisade, dont il assura les opérations d'approvisionnement dans la région de Saint-Jean-d'Acre. Était-il lié aux Templiers? Son nom n'apparaît dans aucun registre de dignitaires, mais, étant donné sa fonction dans une région où les moines soldats opéraient en force, il ne fait aucun doute qu'il en a été proche. L'esprit de Vincent tente de relier cette information à ce qu'il sait déjà. Voilà en effet une pièce de choix pour notre puzzle. Cela tendrait à prouver que Nicolas Flamel s'est établi là pour s'approprier ou bien protéger cette entrée souterraine. Comment en aurait-il eu connaissance? Qu'il soit considéré comme un véritable alchimiste, un habile négociateur immobilier ou le chanceux découvreur d'un trésor, ceux qui ont étudié son histoire s'accordent à dire qu'il était initié aux arcanes des savoirs occultes. Cela ne nous dit pas pourquoi un accès était caché dans la sépulture auparavant. Dissimuler une entrée secrète dans une dernière demeure était une pratique relativement répandue. Comme dans les tombeaux égyptiens? Pas tout à fait. Les artifices déployés dans les tombes des souverains d'Égypte avaient pour unique but de protéger le repos éternel des défunts et les richesses déposées auprès d'eux pour leur vie après la mort. Leurs monuments funéraires étaient d'abord des coffres-forts. Ce n'est que bien plus tard, chez les Romains notamment, au moment des premières révoltes, que les caveaux furent utilisés par des conjurés, des opprimés ou des fuyards comme cache ou comme passage secret. L'aspect sacré a évité un temps que les autorités ne viennent les y débusquer. Personne ne soupçonnait alors que l'on puisse trouver refuge auprès des morts, dans des lieux sur lesquels planaient les pires superstitions. C'est ainsi que des gens qui n'avaient pas d'autre choix ont commencé à se réunir dans les caveaux, à s'y terrer, notamment les premiers chrétiens persécutés. Puis le phénomène s'amplifia encore avec le développement des catacombes. Avec l'usage, beaucoup ont également compris que les sépultures étaient des monuments que l'on ne détruit pas facilement. Les mausolées étaient réputés durer plus longtemps que les bâtis utilitaires. Ce que l'on y cache est censé être à l'abri pour l'éternité. De nos jours, remarque Charles, on déplace pourtant des cimetières entiers. Celui des innocents a bien été évacué pour créer les halles. C'est une pratique très récente qui ne concerne pas notre cas. La remarque conforte Charles. Il est donc plausible que la tombe ait abrité l'accès au tunnel avant que la maison de Flamel ne la remplace au même endroit. Vincent acquiesce. Les dates concordent. Il faut cependant espérer que ce n'était pas le seul accès au dédale, parce que l'effondrement de la section la plus profonde l'a rendu impraticable. À moins de le creuser à nouveau. Je ne parierais pas là-dessus. Des travaux d'une telle envergure, pouvant potentiellement déstabiliser les fondations des constructions au-dessus, nécessiteraient bien trop de moyens et sans la moindre garantie de résultat. Mieux vaut chercher ailleurs. Si d'autres voies existent, leurs entrées se trouveraient logiquement abritées dans des bâtiments datant de la même époque, aux alentours du XIIIe siècle. Cavell hoche la tête pour confirmer. Charles se désole. Vous rendez-vous compte du nombre de possibilités que cela représente dans une cité comme Paris ?